Je suis en ligne avec Christelle. Christelle, je suis en compagnie, je vous l'avais promis, d'un... C'est pas simplement un technicien, mais c'est aussi un technicien, et nos auditeurs l'apprécient beaucoup parce que c'est Arash Derenbarch, avocat. Mais c'est un technicien pédagogue qui parle toujours un langage extrêmement clair et précis. Donc je vais vous le passer, ma chère Christelle, mais j'aimerais que vous nous rappeliez un peu les faits avec le maximum de précision également et d'esprit de synthèse. Merci, ma chère Christelle.
Bonsoir à tous. Merci de me laisser l'antenne à un moment. Enchantée, hein, Arash.
Bonsoir, madame. Et bonne année.
Bonsoir. Merci, bonne année à vous aussi. Alors, je voudrais savoir si je dois décliner mon histoire dans un ordre chronologique ou si vous...
Est-ce que je peux le synthétiser et vous me dites si j'ai bon ou pas ?
Allez-y.
Vous avez voulu avoir un enfant ?
Oui.
Vous êtes allé faire ce qui est tous vos droits, bien sûr, et tout à fait respectable, une PMA ?
Alors, j'ai commencé en France.
Voilà.
Voilà. Et en fait, elle s'est arrêtée en France de par le fait que... Alors, j'ai réitéré mon terme, mais il est pour moi normal. Le faux papa...
Mais il faut parce que pour que les auditeurs sachent, vous ne pouviez... Oui. Vous étiez célibataire, vous avez eu l'envie et la volonté d'avoir un enfant.
J'ai un grand qui a 17 ans, d'accord ? Que j'ai eu avec mon ex-mari, qui était marié 15 ans. Et après ça, effectivement, j'étais célibataire et je souhaitais avoir un enfant, voire plusieurs, au cas où.
Très bien.
Voilà. Et il s'avère qu'à l'époque, il n'était pas possible en France, pour une femme seule, de pouvoir entreprendre ces démarches.
On était en quelle année ?
On était en... Alors, le début des démarches de PMA ont commencé en 2018.
Parfait.
Voilà. Donc, début des démarches même avant, je disais bêtises, septembre 2017.
Peu importe les dates, hein, de toute façon, c'est le
congrès. Ce que vous comptiez faire, en fait, c'était d'avoir un géniteur, soit d'avoir un enfant vous-même.
Ben voilà, moi je voulais absolument avoir un enfant.
D'accord.
Et donc, au départ, j'avais un projet commun, un projet parental avec une personne. Et après les démarches effectuées en France, auprès de plusieurs hôpitaux, hein, je suis allée sur Suresnes, je suis allée sur Montsouris. Et après avoir fait des tentatives infructueuses ou autres, je me suis ensuite orientée vers l'étranger. Et voilà, et donc le faux papa, je répète... avait des gamètes un peu dysfonctionnantes.
Mais je me permets de vous couper et de vous poser une question.
Oui.
Qui était ce monsieur que vous avez rencontré par inadvertance ou c'est un ami
Non, en fait, on s'est rencontrés lors d'une soirée. Voilà.
Vous avez accroché avec lui ?
J'ai accroché avec lui.
Et vous avez rapidement dit, vous lui avez rapidement demandé
exactement,
de faire un enfant avec
immédiatement,
lui.
Voilà. Immédiatement. En fait,
le soir même, vous avez dit, voilà, j'ai envie d'avoir un enfant.
Deux, trois mois après, même pas.
Parfait. Donc du coup, lui, vous a dit, ok, pas de problème, je veux bien être le géniteur.
Exact.
Donc, vous êtes tombée enceinte ? Vous êtes tombée enceinte ?
Ah non, non, pas du tout. Non,
comment vous êtes tombée enceinte alors ?
Alors lui, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. S'il écoute, il ne va pas être ravi, mais c'est la vérité. Donc,
oui, mais en même temps, on ne donne pas de nom, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est ça. C'est ça, non, mais je sais qu'il est de l'autre côté.
Mais vous avez eu recours, ce que j'ai compris, à un don de sperme par la banque de sperme, c'est
alors, ça alors, au départ, quand j'étais avec lui, on était avec lui et ses gamètes, d'accord ? Au niveau de Montsouris, au niveau de la France, ok ? Il s'avère qu'à chaque fois, c'était infructueux, etc. Donc après, il y a eu des examens plus poussés ou autres, après des tentatives qui ont pu être faites avec ces gamètes, on s'est rendu compte que c'était pas faisable. Voilà.
Donc, du coup, ce que je comprends, juste pour synthétiser, madame, c'est important qu'on synthétise parce qu'il faut qu'on aille à l'essentiel de votre problème.
Bien sûr.
Vous avez fait plusieurs démarches.
Oui.
Vous êtes arrivé à un point où toutes les démarches ont été infructueuses pour vous, jusqu'au point où vous avez utilisé la banque de sperme.
Exactement. Voilà. En fait, si vous voulez, il y a même un test qui existe. Je pense que pas grand monde en France ne connaît ce terme. Et par contre, les médecins, eux, le savent. Il y a une prise de sang qui existe qui s'appelle le FISH, comme un poisson.
D'accord.
Qui se fait chez un homme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Oui, oui. Mais le fait est, pour votre problème, parce que je voudrais qu'on aille, en fait, pour que les auditeurs comprennent votre problème.
Bien
et là,
sûr.
En fait,
il
ne faut pas qu'on s'éternise en fait, sur des faits qui soient accessoires.
Il n'y a pas de problème.
Donc,
pas de problème.
Donc, les étapes, en fait, vous avez fait toutes les étapes possibles et inimaginables.
Exact.
Jusqu'au moment où vous êtes arrivé jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire la banque de sperme.
Bah, en fait, après, il y avait cette possibilité. Si je voulais vraiment un bébé, je n'avais pas d'autre choix que
mais vous êtes tombé, d'accord, mais vous êtes tombé enceinte par ce biais.
Exactement.
Voilà, donc on y arrive. Oui. Vous êtes tombé enceinte par ce biais. Et lorsque vous êtes tombé, vous avez eu votre grossesse, une grossesse douloureuse et pathologique. Vous utilisez le terme pathologique. Pour que les auditeurs sachent que c'est pathologique, c'est que vous étiez en situation de vulnérabilité. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un terme juridique, ça a des conséquences juridiques. Et je vais vous le dire dans 30 secondes.
D'accord. Oui, parce que là, on va être obligé de marquer une pause publicitaire et entendre un nouveau flash d'informations par Raphaël Delvolvé. Et nous reprenons cette conversation avec Arash après les informations. A tout de suite, Christelle. Christelle, je vous repasse Maître Darren Barsh. Et merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices de nous rejoindre. Allez-y, Christelle, c'est à vous.
D'accord. Arash, vous étiez en train de m'expliquer qu'une grossesse pathologique, oui, ça m'intéresse.
Donc, en réalité, le début n'est pas très important par rapport aux faits.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, pour que les auditeurs comprennent de façon très synthétique, vous aviez un désir de grossesse.
Oui.
Et vous avez utilisé plusieurs méthodes, plusieurs sortes de possibilités. Et nous en sommes arrivés donc à la banque de sperme.
Oui.
Et donc, vous êtes tombée enceinte.
Oui.
Vous avez eu une grossesse pathologique, c'est ce que vous expliquez.
Oui.
Et la grossesse pathologique, pour que les auditeurs d'Europe 1 sachent de quoi il s'agit, c'est une grossesse qui engage, entraîne un grave préjudice physique et moral.
Oui, en fait, c'est un peu compliqué, mais en même temps, il y a des gens qui apprendront des choses. J'avais ce qu'on appelle un placenta previa.
Mmh. Ah, c'est
donc
quoi ça?
Alors voilà, un placenta previa, en fait, c'est-à-dire que le placenta vient se positionner en bas de l'utérus, en fait, en bas, quoi, au niveau du passage, c'est-à-dire que le bébé ne peut pas sortir de manière naturelle. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a obligation d'avoir une césarienne. Et il s'avère que j'avais déjà eu 2 césariennes. Donc, juste avant mon accouchement, on m'a demandé de faire un IRM parce qu'on a eu une crainte qui a été écartée à ce moment-là. Mais moi, je n'avais pas saisi l'urgence de la chose. On avait peur qu'il soit ce qu'on appelle un accreta. Et donc, en fait, un placenta previa, donc qui est mal positionné et qui est accreta, c'est un petit peu ce qu'on m'a expliqué, c'est comme des petits filaments qui viennent se mettre à l'endroit où vous avez eu vos anciennes cicatrices. Et si ça se rompt au moment de l'accouchement, vous mourrez.
Donc, vous aviez au départ, il y avait une malformation qui a amené...
Non, mon bébé, il allait bien. C'est mon placenta qui était mal positionné.
C'est exactement ce que je dis, chère Christelle.
Ah oui,
je dis, voilà, il y a une malformation.
Mon bébé,
c'est la malformation, c'est pas forcément qui... La malformation, dans un cas précis, en l'occurrence l'accouchement, a amené à une grossesse pathologique. Ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ça qui intéresse le plus les auditeurs. Ce qui intéresse le plus les auditeurs, c'est l'étape d'après.
D'accord.
Donc là, on en arrive à votre question.
Non, mais c'était intéressant quand même, cette histoire. J'ai appris des choses personnellement.
Absolument.
Mais c'est vrai qu'on s'éloigne quand même de votre cas.
Parce que là,
Christelle, si vous voulez, je vais résumer votre affaire, parce que vous avez l'air du mal à le faire.
Non, du tout, je réponds.
Alors, j'aimerais quand même, pour qu'on avance, ma chère Christelle, parce que c'est vous qui êtes quand même en souffrance, donc moi je vais vous aider. Aller à l'essentiel du dossier. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.
Je vais décliner l'histoire et maître, n'hésitez pas à...
Mais dans les grandes lignes, Christelle, parce que ce qui nous intéresse c'est d'avoir des solutions à vous proposer.
Et donc là, vous accouchez et ensuite, alors
J'ai mon bébé. Je prends initialement au départ un congé parental pour m'occuper de mon enfant.
Et comment se comporte ce monsieur, alors?
Ah bah il est assez présent et tant mieux en même temps.
Mais vous dites qu'au bout de 2 mois, au bout de 2 mois.
Voilà, il voulait, non, en fait, il voulait absolument reconnaître mon enfant, ce que je ne souhaitais pas.
Pourquoi vous ne vouliez pas qu'il le reconnaisse?
Alors, je ne le souhaitais pas parce que à partir du moment où ce monsieur a compris que il ne pouvait pas être le géniteur de l'enfant, il avait fait un rejet complet de l'idée.
Mais
en premier lieu.
J'ai une question, pardon, je vous arrête.
Oui.
Vous êtes allé à la banque du sperme?
J'y suis pas allée, non. Enfin, c'est par internet. On s'est contacté.
Oui,
non,
mais
on va pas sur place.
Qui concrètement est le père de cet enfant?
Ah ben,
est-ce que c'est cet ami ou est-ce que c'est un inconnu?
Non, c'est pas lui. C'est un inconnu.
C'est un inconnu. On est d'accord.
Oui, tout
d'accord.
À fait.
D'accord. Donc vous dites, vous dites, ce monsieur est venu et a fait une reconnaissance de paternité.
Voilà, au mois de mars.
Donc ma question, c'est comment est-ce possible? Vu qu'il n'y a aucun lien de parenté.
Voilà, on a été là la semaine dernière et c'est là qu'on bloquait.
Voilà, exactement.
Donc là, en l'occurrence, il y a un mensonge. Donc ça veut dire que ce...
Oui.
Mais là, la première chose que vous pouvez faire...
Sauf Carache, si j'ai bien compris, si on vous interrompt, les tribunaux ont donné raison au monsieur.
Oui, pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple, en réalité. L'imbroglio, parce que dans un problème de droit, il faut toujours en fait visualiser... et cibler le problème.
Mmh.
Et parfois, un imbroglio crée du droit. Je vous donne un exemple très concret avant qu'on revienne sur cette affaire.
D'accord.
Vous créez un faux, vous faites une fausse attestation, un acte de naissance, faux. D'accord, madame?
Oui.
À partir de là, vous pouvez obtenir une licence de football. Vous devenez un footballeur avec une fausse date de naissance. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le joueur Moukoko, qui est une star internationale dans l'équipe d'Allemagne. Et il s'avère en tout cas, il y a des papiers qui attestent que son âge n'est pas le bon.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'à partir d'un point A, vous créez du droit...
On ouvre une brèche, en fait.
Vous créez du droit qui amène un point B, sauf que ce point B ne peut pas tenir, puisque dès le départ, le point de droit initial est faux. Là, dans votre cas personnel, ce monsieur... se réclame comme le père de votre enfant alors qu'il n'est pas juridiquement et il n'est pas, on va dire, sur le plan personnel,
biologiquement.
Le papa, biologiquement, le papa. Et pourtant,
et
il va se réclamer... Pardon ?
Il n'est pas dans mon contrat de PMA, non.
Il est en fait, Arash, j'ai l'impression qu'il n'est rien.
Il n'est rien, mais pourtant, il va faire cet acte.
Oui.
Donc, il y a, dès le départ, un faux... qui a été fait. Donc là, du coup, vous avez une possibilité déjà de déposer une plainte.
Contestation de paternité.
Oui, mais là, vous allez en civil, madame. Moi, je suis en train de vous parler de pénal, là.
Oui.
Je vous rappelle que le pénal tient le civil en l'état. Et je ne le répéterai jamais
vous
assez.
Vous pouvez expliquer ce que ça signifie?
Ce que ça signifie, en réalité, c'est que la reine de toutes les juridictions, c'est le pénal. C'est-à-dire que le pénal prévaut sur tout le reste.
D'accord.
Donc, le fait de déposer une plainte au pénal, ça emmène toutes les autres droits avec vous. En l'occurrence, ici, lorsqu'une personne se réclame d'un droit dont il n'est pas le tributaire, dont il n'est pas le propriétaire, c'est forcément sur des actes qui sont mensongers.
Oui.
À partir du moment où il vient, il dit « voilà, moi je suis le père », on va lui demander des attestations, on va lui demander des actes, des pièces. Et s'il produit des fausses pièces,
Il a produit le livret de famille auprès de la mairie où j'habite pour pouvoir avoir des droits et c'est avec ça qu'il s'est revendiqué
bon,
devant
donc
un
c'est un faux. Donc c'est un faux. Donc du
oui,
coup, vous pouvez déposer premièrement une plainte pour faux. Mais la deuxième plainte pour laquelle vous pouvez déposer, et je voudrais que vos auditeurs soient informés de ça, je regarde et je constate qu'il y a 23 jours d'ITT dans votre affaire. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est qu'un ITT, pour que vos auditeurs le sachent?
Interruption temporaire de travail.
Je veux juste, en fait, attendez, il faut être très pédagogique pour que tous les auditeurs comprennent.
D'accord.
Vous avez ce qu'on appelle les arrêts de travail. Ça, c'est en matière de droit du travail. Mais en matière de droit pénal, l'évaluation du préjudice physique ou du préjudice moral est caractérisée par l'ITT. L'ITT, c'est l'interruption temporaire de travail ou l'incapacité totale de travail. Ça... Vous pouvez l'obtenir, et je voudrais le dire à tous ceux qui écoutent ici, ce soir, vous pouvez l'obtenir en demandant une réquisition. C'est-à-dire que les policiers, avec l'autorisation du procureur de la République, mais aujourd'hui c'est systématique, vous envoient dans un hôpital spécialisé qui est juridique, judiciaire, et là on vous évalue le nombre de jours, ou de semaines d'ailleurs, ou de mois, d'incapacité totale de travail. Avec ça, on peut voir si ça peut être délictualisé, correctionnalisé ou pas. En l'occurrence, vous, vous avez plus de 15 jours, ce qui est énorme.
Plus de 15 jours. C'est un retentissement sévère.
Absolument. Donc du coup, ça veut dire que le retentissement physique et moral est à prendre très au sérieux. Donc moi, la deuxième plainte que je me permettrai de vous suggérer de déposer, c'est une plainte pour abus de faiblesse. Je rappelle à tous les auditeurs, et je rappelle à vous, madame, chère Christelle, que l'abus de faiblesse, dans le cas d'une grossesse, notamment pathologique, fait de vous une personne vulnérable. La grossesse est une situation de vulnérabilité. Je le dis à toutes les femmes ici qui écoutent.
Mais c'est important, oui.
Lorsque vous êtes, mesdames, dans une situation de grossesse, qui plus est grossesse pathologique, les hommes ont une obligation qui est supérieure, qui est beaucoup plus grande qu'en temps habituel. Moi, je vois souvent d'ailleurs dans des dossiers où l'homme met enceinte une femme et ensuite s'en va. Et bien ça, c'est un abus de faiblesse. C'est très grave.
Ça, c'est un abus de faiblesse.
C'est un abus de faiblesse parce qu'il y a souvent d'ailleurs des contreparties. C'est-à-dire que l'homme vit au crochet de la femme.
Attendez, que je comprenne bien, maître. On n'a pas le droit, mais si un homme abandonne une femme enceinte, c'est un délit ?
Ah oui, c'est un délit. D'abord, c'est un abandon.
J'appelais ça un salaud, mais je ne savais pas qu'il y avait une traduction juridique.
Non, c'est un délit.
C'est-à-dire qu'une femme enceinte qui est quittée...
D'abord, ça peut être une assistance à personne en danger.
Peut porter plainte.
Ah, bien sûr,
mais c'est très important. J'apprends ça ce soir.
On peut pas lâcher une femme comme ça. Vous la mettez enceinte, c'est
trop simple. Il y a tellement de cas de figure où ça arrive.
Tous les jours.
Et j'avais jamais entendu l'aspect juridique de ça.
Tous les jours, on peut déjà.
J'ai jamais connu de femme portant plainte pour ça.
Une femme, si elle prouve le préjudice, c'est-à-dire qu'une violence psychologique, par exemple. Là, en l'occurrence, pourquoi moi je parle ici d'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse ici, pourquoi? Parce que Christelle. A un préjudice.
Oui.
Elle accouche dans une situation absolument terrible.
Oui.
Elle a une grossesse pathologique. Mais en plus, et c'est ça le comble du scandale, c'est que ce monsieur dépose plainte contre Christelle derrière.
Oui, c'est là.
Ça, vous ne l'avez pas encore dit, mais moi, je me permets de le dire à votre place.
D'enfant.
Pour non-représentation. Et donc, du coup, Christelle encourt une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.
Pour s'être fait voler un enfant, en gros. Hein, si on
exactement. Donc ça, c'est quand même assez scandaleux. Donc là, du coup, vous pouvez vous contre-attaquer. Il faut le faire dans les plus brefs délais. Déposer une double plainte pour faux, premièrement, et une deuxième plainte pour abus de faiblesse.
Personne ne vous l'avait jamais dit, ça, Christelle ?
Alors, en fait, je savais que je pouvais déposer plainte parce qu'en fait, de reconnaître un enfant dont on n'est pas le géniteur, dans ce que j'ai pu lire en me documentant ou autre, c'est que c'est un crime. C'est considéré comme un crime. C'est ce que j'ai lu, en tout cas.
De ne pas reconnaître son enfant ?
Non. De reconnaître un enfant dont on
ne sait pas être le géniteur. Bien sûr.
La seule chose, c'est que moi, je me suis vue entendre, à différentes étapes, que je ne pourrais entreprendre cette démarche que lorsqu'il sera totalement contesté de l'acte de naissance de mon enfant.
Là, je comprends
voilà
rien. Je comprends pas ce que vous dites. Excusez-moi.
Alors, je recommence.
Je pense que vous l'avez bien expliqué, mais je n'arrive pas à saisir ce que ça signifie.
Alors, en fait, moi, on m'a expliqué
que
je pourrais entreprendre des démarches à l'encontre de ce monsieur pour me plaindre du fait qu'il avait fait cette reconnaissance alors qu'il savait ne pas être le géniteur et donc par rapport au préjudice, que
ça,
ce soit
normal,
pour mon enfant ou pour moi, qu'après... qu'il ait été totalement, entre guillemets, on va être clair, radié de l'acte de naissance de mon enfant.
Ah, mais ça, c'est le serpent qui se mord la queue.
C'est ça. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Que je ne pouvais pas entreprendre de démarche tant qu'il était le père et qu'il était sur l'acte de naissance de mon enfant. Voilà, à ce niveau-là. Et pour le moment, en fait, moi, j'ai fait quelques petites notes devant moi, donc je vous explique rapidement. Donc moi, je suis en contestation de paternité. J'ai écrit au procureur de la République en novembre 2021.
Oui, ça commence
j'ai
à dater un peu.
J'ai eu une réponse en janvier 2022 de la part du tribunal de Nanterre. qui m'a indiqué que... Non, mais vous allez voir, parce que j'ai eu des nouvelles cette semaine.
D'accord.
Vous voyez, votre émission, je l'ai envoyée en podcast.
Je peux vous poser une question, Christelle ?
Oui.
Cet homme est de nationalité française ou il est de nationalité étrangère ?
Non, il est français.
D'accord.
Parce que oui,
il est français.
Vous avez envoyé notre émission en podcast ?
J'ai envoyé votre émission en podcast au bureau du procureur de Nanterre lundi matin. Et bizarrement, j'ai eu une réponse au bout d'une heure.
Ah, c'est bien, ça sert à quelque
sur une
chose.
De mes questions. Donc, je vais vous expliquer la suite.
Je vous redonne la parole. Hein. Arrachez.
D'accord. Et donc, après ça, en janvier 22, on m'a demandé de me rapprocher d'une avocate, ce que j'ai fait. Sauf qu'elle n'a pas pris la mesure de faire rapidement la démarche de demande de contestation de paternité. En avril 22, ce monsieur s'est présenté à la crèche de mon enfant, a voulu qu'on lui remette mon enfant. La directrice a eu le sang-froid de lui dire que non, elle ne lui montrerait pas mon enfant, elle ne lui remettrait pas. Et il avait fait une demande donc du carnet du livret de famille de mon fils. Hein. Et il a été se revendiquer ensuite en mairie en disant « Mais regardez, moi je suis le père, je suis sur l'acte de naissance, etc. » Et donc il a saisi un JAF en urgence en disant que je le privais de voir son enfant. Et j'ai été reçue en 13 jours. C'est-à-dire que j'ai reçu la convocation fin avril et j'ai été convoquée le 10 mai.
Je vais reposer les choses encore plus simplement.
Rectifier. Pardon, hein, je me permets juste de rectifier un propos. D'abord, ce n'est pas un crime la reconnaissance d'un enfant qui n'est pas le sien. D'abord, je voudrais juste qu'on soit précis sur les termes. C'est une reconnaissance qui s'appelle frauduleuse.
Frauduleuse, oui.
Mais ce n'est pas un délit. C'est-à-dire que ça, c'est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mm-hmm. C'est un arrêt du 8 mars 1988.
D'accord.
Donc, ça, c'est une chose très importante. Mais c'est une déclaration frauduleuse qui parfois, c'est pour ça que je vous ai dit, parfois ça peut avoir pour des raisons qui peuvent être... Donc c'est de la fraude pour les titres notamment de titres de séjour. Moi, pourquoi je vais sur le faux? Parce que le fait de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien, c'est toujours et obligatoirement sur le fondement de pièces qui sont soit falsifiées, soit altérées. Parce que si vous dites je suis le père en montrant un livret de famille, mais avec des fausses informations dedans, c'est l'altération de la vérité. Donc là, ça s'appelle un faux. Et c'est d'autant plus grave. Et là, par contre, ça peut être effectivement un crime, parce que si vous faites un faux en écriture publique, c'est quoi un faux en écriture publique? Ça veut dire un faux établi par un officier d'état civil. Donc là, du coup, ça devient un crime. Donc la première plainte, c'est pour un faux. C'est-à-dire vous altérez ou falsifiez un document. La deuxième plainte, c'est sur le fondement d'abus de faiblesse. C'est-à-dire que vous êtes, vous, en situation de faiblesse, comme je l'ai répété tout à l'heure. Et donc là, vous avez un deuxième axe de défense ou d'attaque, plutôt. Et donc, du coup, là, vous pouvez riposter dès lundi matin sur les deux axes que je viens de vous dire, sur le plan pénal. À mon sens, sur le plan pénal, vous avez de grandes chances de gagner si vous allez, premièrement, sur le volet faux et sur le deuxième volet, abus de faiblesse. Sur le plan civil, vous pouvez faire annuler... À partir du moment où il y a la reconnaissance est frauduleuse, vous pouvez faire annuler ce lien de paternité. Et ça, ce sont des moyens juridiques qui sont extrêmement simples.
Je suis en cours. La seule chose, c'est que
vous pouvez
la
faire en référé.
Ah oui, parce que moi, en fait, elle a été envoyée seulement en juin, la contestation, au final. Elle a été reçue en octobre, et là, pour le moment, on n'en est que.
Là, on est en urgence. Il y a une urgence, donc du coup, vous pouvez faire un référé.
D'accord. Ok, bah écoutez, on va tenter ça. Parce que moi, il y a eu un ad hoc qui a été mandaté pour mon fils, là. Et pour le moment, on me parle de février, mars, on est loin. Est loin. Et pendant ce temps-là, c'est mon fils qui souffre. Et il aura 3 ans vendredi prochain.
Bien sûr.
Et je ne vais pas passer les 3 ans de mon fils avec mon enfant. Donc voilà, c'est difficile.
Je pense que ce serait bien que vous suiviez les conseils de notre
ami
RH.
Hein, merci beaucoup.
Vous nous tenez au courant, on va se donner une petite semaine.
Un tout dernier conseil sur le faux.
Oui.
Renseignez-vous auprès de l'Office d'État civil qui a octroyé cette reconnaissance de paternité et demandez quels étaient les papiers qui ont été donnés.
Ah mais je sais ce qu'il a donné.
Et surtout, si... La mairie ou l'office d'état civil qui a validé la paternité, eh bien vous pouvez engager sa responsabilité aussi.
Oui, mais je vous explique, parce qu'il y a peut-être un détail qui était omis. C'est que moi, en fait, ce monsieur m'a manipulé. Donc j'étais présente.
Et donc, je retombe justement, c'est ce que je vous dis, sur l'abus de faiblesse.
D'accord.
Où la manipulation est un élément constitutif. Vous voyez, on retombe sur nos pattes toujours.
J'ai compris. Oui, d'accord.
Donc, le faux d'un côté, l'abus de faiblesse de l'autre.
On peut demander...
je peux vous dire juste une chose qui m'a choquée.
Attendez, on peut demander un test ADN?
Oui, ça, c'est la partie civile.
Donc,
ça résoudrait.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça résoudrait le problème.
Oui, mais pour le civil.
Oui, mais c'est déjà.
Si vous voulez engager sa responsabilité sur le plan pénal, il y a, c'est ce que je voilà, on dit ceci, mais en réalité, on retombe sur nos pattes, puisque ce monsieur, en fait, en réalité, qui est un usurpateur,
ah, c'est ça,
peut engager sa responsabilité pénale pour des faits qui sont très graves.
D'accord. Oui. Ok. Oui, Christelle,
je voudrais
vous en
juste
prie.
Expliquer un détail qui
oui,
m'a choqué.
Je vous en prie.
Quand je suis passée devant la JAF, d'accord.
Juge aux affaires familiales.
Et juge des affaires familiales, exactement. Mmh. Je me suis appris la parole, il a raconté n'importe quoi sur moi en me dénigrant pendant plus d'une demi-heure.
Qui ça, le juge ?
Et le faux papa.
Ah oui, bien sûr, j'ai eu peur.
Voilà, et à l'issue de ça, d'ailleurs, pour être clair, c'est que j'avais l'impression, j'aime beaucoup Victor Hugo, Les Misérables, un petit peu, voilà. Je me suis levée devant la juge pour lui parler, et elle m'a dit, on n'est pas au pénal, vous pouvez vous asseoir. Mais moi, j'avais vraiment l'impression d'être une accusée, donc c'est pour ça que je me suis levée face à la juge. Et après, je me suis rassise. J'ai expliqué mon histoire. J'ai expliqué, hein, quand même, avec certains détails. Et ce monsieur a expliqué, il a été raconté qu'il avait payé mon enfant. Non, mais imaginez les termes, d'accord ? Donc, ils sont gravissimes. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il a produit une fausse facture, mais on est sur autre chose. Même au niveau de la PMA, il essaye tellement de faire croire qu'il est dedans qu'il a été produire une fausse facture. J'ai découvert ça début décembre, seulement au moment de...
Mais vous voyez, madame, c'est ce que je suis en train de vous dire. D'un côté, le faux, et de l'autre côté, l'abus de faiblesse. En réalité, tous les éléments que vous donnez qui caractérisent les infractions que je viens de vous citer.
On a quand même affaire à un psychopathe, je veux dire.
Oui, mais c'est traditionnel, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces dossiers-là. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, pour des objectifs qui sont assez obscurs, s'octroie des droits à votre rencontre et pour vous porter atteinte.
Mais même vis-à-vis de l'enfant, c'est absolument...
Bien sûr,
c'est ça, l'enfant, mon bébé, il est malade.
La vraie victime là-dedans est l'enfant.
Il
l'enfant, il doit bien comprendre,
bien
sentir,
bien
savoir que ce n'est pas son père, en
bien
rien.
Sûr. Il y a un film d'ailleurs que je me permets de vous suggérer, à tous les, à vous, Christelle, à Yann et à nos auditeurs, c'est le film L'Échange, qui est un extraordinaire film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Avec Angelina Jolie, c'est un film fabuleux, extraordinaire. Et il faudrait que vous, chacun puisse voir ce film sur les échanges d'enfants.
Merci beaucoup, Christelle. Je
merci.
Vous souhaite bonne soirée. On se rappelle la semaine prochaine, d'accord ?
Pas de souci.
Bonne soirée.
Pas de souci.